Bonjour à tous. Que ce jour soit pour la réfoua de tous les malades, en particulier de Rav Israël Yitzhak, Ochana ben Myriam, que Hachem le réfoua complète et rapide. Bezat Hachem. Alors, on avait commencé à parler dans un premier jour de qui était commencé à repenser le quotidien. On y avait abordé le monde de la maison. Et que c'est de là-bas que tout partait, du Hesh, du Mizbéach, que tout s'allumait. Alors j'aimerais continuer cette réflexion et m'appuyer sur le texte de Pirkei Avot, qui est ce guide qu'on nous met d'office entre les mains, par la force de nos minagim, entre Pessah et Shavuot, et m'attacher à une des Mishnayot du Pérec Rishon, et puis après essayer de comprendre où ça peut nous emmener sur Alors, la Mishnah dont j'aimerais qu'on parle, c'est la Mishnah très connue, la Mishnah Vav, qui dit Yoshua ben Perachia ben Itayarbeli kiblu mehem. Et donc Yoshua ben Perachia et Itayarbeli ont reçu de leur maître, qui avait parlé juste avant, Rabbi Yochanan Yerushalayim et Rabbi Yohanan de Rabbi Yossi ben Yosef et Tsereda, ils ont reçu de leur maître la chose suivante. Aselecha Rav, c'est ce que dit Yoshua ben Peraria, Uknelecha Chaver, acquiers-toi un ami, Veve Dan et Kol Adam le Kav Zechut, et juge tout homme au bénéfice du doute. Donc, se faire un Rav, acquérir un ami et juger tout homme les caves et routes. Bon, il y a ici trois sujets, visiblement, qui ont aussi un lien entre eux. Alors, on n'aura pas le temps de tout traiter. De traiter l'inyan de Asseh Lecha Rav, de Kni à travers et de caves et routes, et également en fait, de la synthèse des trois. Mais je crois que dans Repenser son quotidien, il y aura d'autres thématiques qui seront sur Kinyan Chaver et sur Kaf Zechout, on verra pourquoi. Enfin, cette Mishnah-là nous permettra de commencer à envisager demain le déconfinement, qui, je pense, passera pour le 11 mai si facilement que cela. Mais en tout cas, on va se servir de cette Mishnah-là pour essayer d'anticiper et de comprendre ce qu'on peut faire après. Avant de comprendre ce qui se passe dans cette Mishnah-là, de Asseh Lecha Rav ou Kni Lecha Chaver, il faut comprendre le contexte de cette Mishnah-là et comment est-ce qu'il apparaît ici. Cette Mishnah apparaît juste après la Mishnah qui a été dite par Yossi ben Yoazer et Yossi ben Yohanan, qui eux avaient parlé de quoi? Ils avaient dit, que ta maison soit un lieu de rassemblement pour les Chachamim, qu'elle soit grandement ouverte. Le Maharal dans Derech Chaim explique que les Mishnayot dans le Perek Rishon ont une progression. Et la progression qui est suivie, c'est celle du Tikkun Adam. Ce que l'homme doit arranger, améliorer, ce sur quoi il doit travailler progressivement. Et en fait, si on regarde bien les Mishnayot, dit le Maharal de Prague, elles sont par sphères concentriques. Ça veut dire que d'abord, les premières Mishnayot parlent de l'homme. Elle parle ensuite de son bayit, donc sa maison, son intérieur. Ensuite, on parle de Amru, de son épouse. Donc, c'est le tikkun habayit, dit le Maharal de Prague. Une fois qu'il y a eu le tikkun habayit, donc l'homme, sa maison, sa famille, bnei betecha, tes enfants, ceux qui habitent chez toi, ceux qui fréquentent ta maison. Donc, c'était un peu le Hesh du Mizbéar, ce qu'on a vu autrefois. Une fois qu'on a vu cette sphère de la maison, dit le Maharal, alors à ce moment-là, on arrive sur le tikkun des sphères extérieures. Hein. Quelles sont-elles? Eh bien, Aselech Harav, la première sphère que je rencontre quand je sors de la maison, c'est le Rav. C'est la première personne que je rencontre après la maison. Ce qui est intéressant en soi déjà. Une fois que je dépasse cette sphère-là, celle du Rav, il y a celle du Chaver, ou Kni Lecha Chaver, deuxième sphère. Ensuite arrive une troisième sphère qui est celle de Kol Adam. Ve dan et kol adam. Donc arav achaver vet kol adam. Donc du plus particulier, du plus intime, moi, ma maison, blemeto, ishto. Ensuite le rav, le chaver et kol adam. Voici les d'après le Maharal ici. L'étude du Pirkei Avot sert au tikkun de cette sphère-là. Et donc là, on arrive à une sphère qui dépasse le seuil de la porte. C'est celle que on attend impatiemment de retrouver, celle du Chaver, du Rav et de Kol Adam, celle du déconfinement. Alors, comment l'aborder? Comment comprendre ça? D'abord, les termes de la Mishnah vont nous y aider, puisque la Mishnah dit « Assez l'Echa Rav, fais-toi un Rav ». Or, on ne dit pas « fais-toi un rave », la question est connue, je veux dire se faire un rave. En plus, le Rambam dira sur l'expression « assez lecha rave », il dira « afalpi sheno raoul yot lecha rave », dit le Rambam, comme ça Rabban Barthénora, même s'il n'est pas raoul, même s'il n'est pas apte à être pour toi un rave, fais-en toi un rave. Bon, la question, elle tombe sous le sens. S'il n'est pas raoui, quel intérêt d'avoir sur soi un rave qui n'est pas raoui? S'il n'est pas raoui, il n'y a pas à être rave. Je veux dire, t'es pas raoui. Quel est l'intérêt de ce rave que je dois me faire et qui doit en plus ou peut ne pas être raoui? Deuxième chez Ella, celle sur le Kinyan Chaver, on en parlera une prochaine fois, que veut dire acheter un ami, enfin c'est pas un objet, hein, depuis quand maintenant ça se marchande, l'amitié ou le Chaver, et le Vevedanet, Kol Adam Kav Zechut, également ça, de quelle mitzvah il s'agit et quelle est l'implication. J'aimerais m'attarder aujourd'hui uniquement sur la partie Aselecha Rav, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans la notion du Aselech Harav, il faut comprendre ce que dit le Midrash Rabba dans Kohelet Rabba. Midrash dit que d'où apprend-on que si j'entends une parole de Torah, quelque chose de la bouche d'un homme, Adam Shebe Israël, alors, d'où je sais que cet homme, ce que je viens d'entendre, il est Ealaf qui est Shomay Piraham. Si j'entends quelque chose de la bouche d'un Ben Adam, Mipi Israël, je dois le considérer comme si ça venait d'un Chacham. Et pas seulement, d'où on sait ça, parce que c'est marqué Anochi Asher Anochi Metzevecha Ayom. Et pas seulement ça, que ce que tu viens d'entendre, tu dois le considérer comme venant de la bouche d'un Chacham. Tu dois le considérer comme venant de la bouche de Chachamim. Et pas seulement ça que tu dois le considérer comme venant de la bouche de Chachamim, dit le Midrash, tu dois le considérer comme venant de la bouche Mipi Sanhedrin. Et pas seulement ça, dit le Midrash, tu dois considérer ce qu'il vient de dire ton ami Adam et Israël, non pas comme Mipi Sanhedrin, mais plus que cela encore, et là, Keshomea Mipi Moshe, comme si ce que tu viens d'entendre, c'est Moshe Rabbeinu. Et pas seulement ça, pas que de Roé Moshe, Moshe Rabbeinu, et là, Mipi Akadosh Baruch Hu. Donc, Adam et Israël qui te parlent, Chacham, Chachamim, Sanhedrin, Moshe, Mipi Akadosh Baruch Hu. Ici, le Midrash Rabba donne un poids très particulier, très important, à ce qui sort Mipi Israël, à ce que te dit quelqu'un. Il t'informe de quelque chose, il t'enseigne quelque chose, il te le dit. D'un coup, le poids, il devient énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que ce que me dit n'importe qui d'Israël a un poids si important que ça? Sa réflexion est si importante que ça? Peut-être qu'on peut comprendre maintenant ce que ça veut dire. Aselech Harav dit le Rambam, même s'il n'est pas raoui. Même s'il n'est pas raoui. En fait, le même s'il n'est pas raoui veut dire que même si c'est pas, il n'a pas de, peut-être une smicha, tu dois l'entendre. Il y a quelque chose de rave dans ce qu'il dit, dans le « et non raouille », puisque ça sort d'un Mipi Israël, il y a du rave là-dedans. Peut-être qu'il faut peut-être changer les images, enfin, les stéréotypes. C'est peut-être que les stéréotypes du rave ont obstrué nos oreilles. Peut-être que la vision qu'on a de ce qu'on attend, de ce qu'on voudrait entendre, fait qu'on n'entend pas ce qu'il faut entendre, on ne voit pas ce qu'il faut voir. On a perdu le concept de rave. Le rave, il est même dans le Eno Raoui. Alors, ça veut dire, si Eno Raoui, qu'est-ce que je dois entendre? Quel est l'intérêt de ce qu'il va me dire? En fait, ici, le Yesod, il est le suivant. Dit le Rav Baruch, Shalom Baruch, dans Avot Ubanim, il ramène que le sod ici, c'est le sod d'un regard. C'est comment regarder ce qu'il dit, il appelle Istaklut, elle marche Shomea. Tu dois faire attention à ce qui est en train de se dire. Tu dois comprendre que ce qui est en train d'être dit par quelqu'un, sa réflexion, sa chorma, son apport, sa discussion dans l'étude, eh bien, ça vient que Shomea mipi Chacham. Ça veut dire que ce qui est en train de se jouer en face de moi, c'est beaucoup plus qu'une chavruta pour pas que je m'ennuie. Ça veut dire qu'il faut que je comprenne que j'ai besoin de l'autre. Il est en train de m'éclairer sur quelque chose. La Gemara, enfin, les Moussaris disent que même les rois ont besoin de conseillers. Pourquoi même les rois ont besoin de conseillers? Parce que l'homme a du mal à sortir de lui-même. Alors ici, je ne parle pas, on ne parle pas ici forcément de midot ou de défaut à voir sur soi-même. Ne serait-ce que dans le thème de la réflexion, dans le paysage intellectuel, dans la manière de voir un problème. Eh bien, je ne peux pas voir quelque chose, analyser un problème, résoudre une équation en dehors de ce que je suis moi-même. D'ailleurs, c'était la grande fracture entre l'Ishtalchelut de nos Chachamim jusqu'à les gens de la Grande Assemblée, Anshei Knesset Agdola, et après, là où démarre les Pirkei Avot d'ailleurs, et après toute la chaîne de nos Chachamim qui est après la Grande Assemblée. Or, si Pirkei Avot commence bizarrement avec la Grande Assemblée, pas avant, on se dirait, bah alors avant, ils n'ont pas besoin de moussard, il n'y a pas de Pirkei Avot avant, ça commence qu'après. Et là, il y a un grand yesod à comprendre entre l'époque qui est avant la Grande Assemblée et l'époque qui est après la Grande Assemblée. Avant la Grande Assemblée, jusqu'au Chorban, Bayit Rishon et limite construction du Bayit Sheni, on est dans une époque qu'on appelle l'époque des Nevi'im, une Torah de Nevoa. Alors que quand on arrive dans Anshek, la névoie disparaît. Qu'est-ce qui la remplace? C'est la Chorma qui remplace la névoie. On dira Chacham Adif Minavi. Ce sont des Chachamim et des Nevim. Et alors, ça fait quoi? Ça fait que la transmission du savoir et de la connaissance chez un Navi n'est pas du tout comme chez un Chacham. On sait très bien que chez un Chacham, l'expérience prophétique est une expérience qui est traumatique. Il s'endort, il y a une torpeur, Le corps est absent, il en souffre énormément, c'est une vision, c'est un rêve, c'est un chalom. Longtemps le Rambam parle de ça, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que le Navi, pour percevoir le message d'Akadosh Baruch Hu, il fait fi de son corps. Le corps n'est pas dans l'expérience prophétique, la preuve c'est qu'il est endormi, il est en trauma, et donc le message peut être perçu. Après, le corps se réveille, le Navi parle. Donc, c'est-à-dire que l'expérience
on t'entend pas.
Il est sans son corps. Alors que le Chacham, et c'est la grande différence avec le Navi, le Chacham perçoit la sagesse quand il est réveillé et non pas endormi. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, si on dit que le Chacham est Chacham Adif Minavi, sa perception est même plus grande que la vie, mais il est réveillé. Étant réveillé, ça veut dire qu'il est en train de percevoir le message de Chorma de Boré Olam dans les fibres de son corps dont il est esclave. Il ne peut pas, un homme, sortir des sens qui sont les siens. L'homme a 5 sens, toucher, sentir, voir, entendre, le goûter. Ce sont ses sens, c'est son corps. C'est comme ça qu'il rentre en lien avec le monde. Il n'est pas endormi quand il entend ce qu'il dit, ce qu'il reçoit. C'est une grandeur, mais c'est un danger. Puisque si l'homme perçoit le message d'Akadosh Baruch Hu en passant par ses propres sens, ses sentiments, son corps, ses pulsions, ses passions, ce qu'il est. Imaginez les notes de purification, d'abstraction de mon sens, de mon moi, de mon corps, pour que je puisse garantir la fidélité du message. Ah, quand tu es endormi, c'est sûr. Hein, quand tu es endormi, tu as un rêve. Ton corps, il n'est pas en train d'avoir envie d'un beefsteak chez Inoun. T'as que le message, tu es en train de rêver. Tu n'es pas en train de penser à mille choses. Tu n'as pas de cavode, tu n'as rien. Tu reçois le message. Mais quand tu es réveillé, tais-toi, tu es toi-même. Et c'est pour ça que les pires cavotes commencent après à checker cette gdola, qui eux sont des chachamim. En tant que chachamim, ils sont plus en danger que le Navi. Il leur faut tout pire cavote pour ce raffinement des cinq sens et du corps et que le message soit clair. Ce qui veut dire que avoir accès à la chorma, c'est pas évident. C'est pas évident. On n'a jamais toute la chorma. Et même si elle passe par nous-mêmes, elle est défective. Avoir l'autre en face de soi, c'est avoir un bout de chorma qui met inaccessible. Pourquoi ? Ça met inaccessible parce que quand on dit assez les rav, il y a dans ce rav que tu viens de transformer, le enoraouille, cet homme, ce mipi Israël qui devient un mipi Hachem, vient, bien ce que dit le Avotobanim, il dit, c'est Zavit Reya, c'est un angle de vue. Ce qu'il te dit, c'est un angle de vue. Et sache que cet angle de vue qui te permet d'ouvrir une lucarne sur la sagesse, sur une sagesse, cet angle de vue, tu peux courir, mon ami, tu ne pourras jamais l'avoir. Parce que Chachamim, Sanhedrin, Moshe Rabbeinu, Mipi Haroé. Cet angle de vue est le sien, parce que c'est son corps, et c'est lui, et c'est pas toi. Et si tu t'en prives, tu ne l'auras jamais. Faire assez les harav, c'est comprendre qu'il y a quelque chose à entendre, que tu ne pourras entendre nulle part ailleurs. Si sois-y extrêmement attentif. C'est recevoir sa part à lui. Michel dit que même si un homme il te prend Hot Echad, on apprend David Ameler, Hot Echad, une seule lettre, tu peux l'appeler Rav. Ça veut dire quoi? Parce que dans une lettre de Torah, il a sa part. Et cette part-là, tu ne pourras jamais l'avoir à sa place. Jamais. Le Midrash Rabba dans Yitro dit quelque chose qui est énorme. Énorme. Il dit dans Matan Torah, c'était marqué là-bas, Ashomea Am Kol Elokim, est-ce qu'un peuple peut entendre ce que dit Dieu? Comment est-ce qu'on peut entendre la voix d'Hachem? Ça peut s'entendre. Ashomea Am Kol Elokim, question. Là-bas, là-dessus, Midrash, il commente et il dit, Ketsad, comment c'est possible? Ilwaya katuv kol Hachem be kocho. Si c'était marqué, Hachem a parlé avec sa voix, lui, kocho, le référentiel, c'est lui. Lo aya aolam yachol amod. Le monde ne peut pas contenir la voix d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'on a pu entendre? Alors, Sinaï. Omer Amidrash, c'est pas marqué kol Hachem be kocho, c'est marqué kol Hachem be koach. C'est marqué la voix d'Hachem Bekoar, avec force. Pas sa force à lui. C'est pas lui. Si c'est lui le point de repère, il n'y a plus rien qui existe. C'est pas possible. On peut être Mekabel, cette voix-là. Mais c'est marqué Bekoar. Ah, la force de qui? Ici, c'est subjectif. Le point de repère, il bascule, dit le Midrash. Il dit la voix d'Hachem a été entendue Bekoar, Ezekoar, Bekoar, Shel Kol Echad Vechad. La force de chacun. Il continue le Midrash en disant Abachurim, les jeunes hommes, la jeunesse, les fikochan, selon leur force. Azekenim, les fikochan, selon leur force. Aktanim, les fikochan, selon leur force. Chacun a reçu une Torah différente, dira Ravolbeu, c'est pélé, cette histoire. Une voix, et les ekenim, chacun a son col, quoi, il y a plusieurs colottes. C'est la fin du Midrash. Omer Midrash, Amar Hachem l'Israël, lo bishvil sheshamatem kolot arbe tiu sovrim shema et lakut arbe. Il y avait tellement de kolot au Har Sinaï que les Bnei Israël auraient pu croire qu'il y avait plusieurs divinités. Qui me parle? Toi, t'es où? Il y a plusieurs divinités. Dit Hachem, non. ne pensez pas, parce qu'il y a plusieurs colotes, alors il y a plusieurs divinités, et là, comme c'est marqué, c'est moi qui parle. Il y a plusieurs voix, mais il n'y a que moi qui parle. Un instant. Si on essaie de relier les deux Mishnayot, la Recha et la Sefa du Midrash, c'est très intéressant. Pourquoi, quel est le rapport entre la Recha et la Sefa? La Recha, elle dit de quelle voix il s'agit, une voix qui est subjective, qui est propre à chacun, les Bahurim, Zekenim et les Ktanim. Il y a la fin du Midrash qui dit, si tu entends plein de voix, ne crois pas que c'est plusieurs dieux, t'inquiète pas, c'est le même, Anokhi Hashem Lokera. Alors, par analogie simple, les colotes dont parle la Sefa, c'est lesquelles? C'est les colotes du Bahur, du Zaken, et des Ktanim. C'est-à-dire qu'il y a une Torah des Ekenim, une Torah des Ktanim, une Torah des Bahurim. Ce sont des Torotes. Et ce que te dit le Midrash, c'est qu'elles sont tellement différentes. Les messages sont tellement différents, tellement des fois à l'opposé, que ça peut paraître comme deux et la couillotte, comme deux Torotes différentes, deux mondes différents. Mais c'est pas le même Dieu. Parce que des fois, ce que te dit l'autre, ce que peut te faire découvrir l'autre, ce que peut te dévoiler l'autre, l'angle de vue, la fenêtre d'ouverture que peut t'amener l'autre, peut être pour toi un changement de paradigme, mais un choc brutal. Tu passes d'un monde de Katan, tu étais un petit gosse, et tu passes, tu deviens un Zaken, tu deviens un vieux plein de sagesse. Comment tu passes de l'un à là? Lis un rachis, toi seul. Fais lire un rachis à un homme de 70 ans. Fais lire un rachis à un enfant de 5 ans. Et ceux qui ont la joie, le bonheur et la chance d'avoir en face d'eux des enfants de primaire, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, je m'arrête là. Ces enfants-là, lisez rachis avec eux. Vous allez voir ce que ça veut dire. Ktanim lefi kochan. C'est un autre regard. D'autres questions, d'autres problématiques. Eh bien, ça, c'est ce que je cherche chez l'autre. C'est une écoute, c'était assez l'échara, c'est une manière, c'est d'être chômé à l'autre complètement différente. J'ai besoin de l'autre. Allô?
Oui, oui. Ah.
C'est un éclairage. Enfin, moi, je me rappelle, il n'y a pas très très longtemps, il m'est arrivé une histoire avec Rav Israël Yitzhak Ohana. Avec mon fils, on marchait pour aller à la Shul Shabbat, et d'un coup, nos deux chapeaux se sont envolés en même temps et ils ont atterri dans le jardin d'un pavillon dans lequel il y avait deux Doberman noirs qui d'un coup se sont mis à tourner chacun autour de nos deux chapeaux. Et c'était vendredi soir, la Shkia était passée, on allait à la Shul. Et on s'est retrouvés comme deux idiots devant la barrière du pavillon en train de contempler nos chapeaux, et qui étaient plus proches des deux chiennes que de nous. Et on est arrivé bredouille à la choule sans nos chapeaux. On s'est dit, on va les récupérer quand et comment, etc. Bon, je vous raconterai la fin de l'histoire. C'est assez intéressant. Mais on a passé nos Shabbats. On a récupéré les chapeaux au retour de la choule dans un état dont je ne vous parlerai pas. Et bon, il y a eu pas mal de détails qui étaient assez perturbants dans cette histoire-là. Et le Shabbat d'après, je faisais la marche du retour avec Rav Israël Yitzhak Ohana, comme on le faisait d'habitude et comme on le fera avec Zartachem très prochainement. Et je lui racontais l'histoire de ces deux chapeaux qui ont virevolté, qui ont atterri dans le pavillon d'à côté. Et bon, je lui dis, je comprends pas ce qui s'est passé. Et là, Rav Israël Srak, il m'a dit, moi, je vais te dire pourquoi ça t'est arrivé. Je vais te dire pourquoi. Et il m'a dit des choses, enfin, il m'a dit une seule chose qui était extraordinaire. Je ne dirais pas c'est quoi, parce que c'est personnel, mais ce qui est sûr, c'est que je sais que ce qu'il m'a dit, j'aurais jamais pu me le dire tout seul. Ça a été lucide, clair, limpide, c'est une phrase. Et c'est là-dessus que j'ai pu travailler après, pendant longtemps. Mais en tout cas, ça s'appelle Aselecha Rav. C'est accepter ce qui est en face de toi. C'est un regard, un angle, une fenêtre que tu ne pouvais pas avoir. Et tu aurais pu tourner, 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 tu ne l'aurais pas eu. Ça veut dire assez les charav dans ce sens-là. C'est d'abord rendre tout le monde à flou et no raoui, rav, mais c'est donner une autre dimension au rapport qu'on a aux autres. Pourquoi cette Mishnah dans Pirkei Avot est interpellante et rentre dans ces shurim qu'on a appelé commencer à repenser le quotidien. Le quotidien est très particulier en ce moment, il est inédit, on l'a souvent entendu, souvent dit, mais j'aimerais l'analyser à la lumière de cette Mishnah de Pirkei Avot. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je sais bien, parce qu'on est en train de le vivre, il y a une application qui a envahi nos vies. Pour ne pas la nommer, je parle de Zoom. Alors, Zoom, c'est très intéressant. Et là, encore une fois, je vais coller la cavode à tout ce qui se fait par Zoom. Et heureusement qu'il y a eu Zoom pour maintenir tous ces liens. Mais j'aimerais quand même m'arrêter un instant faire un zoom sur Zoom, si vous me permettez l'expression. Mais parce que bon, Zoom, encore une fois, là, ce que je vais dire n'en met pas du tout en cause Zoom. Je pense qu'il faut l'utiliser, continuer de l'utiliser. Enfin, c'est pas ça du tout le sujet. Hein. C'est juste que, comme dit le Baal Shem Tov, dans toutes les choses qui nous entourent, il y a un in-yan et on ne peut pas ne pas le tirer. Tirer ce messer. Zoom a commencé à prendre le relais dans nos vies très rapidement quand l'école est rentrée à la maison. Puis ensuite, il y a eu les shiurim, les bat midrashot, les rabbanim, encore une fois, extraordinaire. Puis après, on a eu des bar mitzvot qui étaient annulés à cause du regroupement et donc ça s'est fait par Zoom. Puis après, il y a eu des brit milot sur Zoom. Il y a eu des tfilot sur Zoom, des teilim sur Zoom, des apéritifs sur Zoom, des réunions familiales sur Zoom, qui d'ailleurs rassemblaient beaucoup plus de monde qu'il n'y en aurait eu en présentiel, parce que pour des raisons techniques, géographiques. Et là où ça a commencé à m'interpeller, c'est qu'il y a aussi des levayotes sur Zoom. Il n'y a pas très longtemps, mon beau-frère a perdu son beau-père et j'étais dans le cimetière où j'ai eu la chance d'entendre un kaddish, parce que c'est là qu'il faut aller pour avoir un kaddish. Et dans le cimetière, et voici qu'un homme met un trépied avec une caméra et il filme l'enterrement. Alors je demande, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu filmes l'enterrement? Ça s'est jamais vu. Et mis ses zooms. Ouais, il faut ses zooms. Hein. Il faut. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont pu assister à l'enterrement grâce à Zoom. Donc là, encore une fois, je ne discute pas du tout sur le bienfait, etc. De Zoom, c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir comment ça se fait que Zoom a donc suppléer, à remplacer toutes les relations que nous avions. Elles sont maintenant interfacées par Zoom. Je crois qu'il... Le fait que nous vivions tous via Zoom... Bon, Zoom va disparaître quand le lien social va revenir. Mais on ne pourra pas faire fi de la réflexion qu'on devrait avoir maintenant. Par exemple, il y a dans tous les foyers un suréquipement, parce qu'on n'a pas d'autre moyen pour rester en lien avec les autres que de se suréquiper. Et pour maintenir ce lien, il faut se suréquiper en termes de matériel numérique, informatique, interface, écran, chacun à son écran, nos élèves, nos enfants, tout le monde. Oui, il faut bien qu'on reste en lien. Mais que deviendra cet équipement quand le lien physique va être recréé? Sera-t-il de nouveau en danger, ce lien qu'on aura essayé de recréer par ces équipements qu'on aura achetés pour maintenir ce lien. Ça. De quel lien est en train de se jouer ici? Il va disparaître, ce Zoom, un jour. Donc, peut-être qu'il faudrait s'interroger sur le, non pas sur la capacité à être ensemble, mais la qualité de cet ensemble. Que veut dire être ensemble? Quand on parle des sphères qui s'agrandissent en Pirkei Avot, quand tu sors de la maison, le Rav, le Chaver et Kol Adam, on en parlera. Mais cet ensemble doit être réinterrogé. Pourquoi est-ce que l'omniprésence de Zoom m'interroge? Je me dis finalement, on s'en tire pas trop mal. On s'en sort. Ben voilà, on parle, on discute, on échange, on parle. Enfin, il y a des gens qui font des apéritifs sur Zoom, il y en a qui font des shiurim sur Zoom, chacun son truc. Mais finalement, on arrive à s'en sortir. Le problème de la vidéo, c'est qu'il n'y a pas d'interaction. On peut interagir. On peut se parler entre nous. On peut échanger des documents. On peut. Non, on maintient le lien. Voilà, il y a des choses régulièrement. Donc, c'est pas une interaction. Le Rav me voit. Je vois mon Rav. Je vois ma famille. Je vois mes amis. Je les vois. Donc, finalement, ça tient la route. Le lien social, il est maintenu. Qu'est-ce qui nous manque? On a je ne vais pas dire le mot maintenant, mais j'ai envie de dire comme ça, que peut-être, qu'on a mis en place un lien qu'on appellerait le lien, que je vais appeler le lien juste suffisant. Zoom permet un lien juste suffisant. Il est suffisant. Il n'est pas idéal, mais il est juste suffisant. Et on voit bien qu'il peut couvrir un spectre très large d'événements, de la Levaya, la Simcha, juste suffisant. Peut-être, que le monde, la planète Terre, avec tout ce qu'elle contient d'humains dans leur macro et micro rassemblement, à quoi ressemble la terre vue du ciel? Quand Akadosh Baruch Hu, il voit le monde, il voit nos rassemblements, qu'est-ce qu'il voit finalement? Peut-être, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il ne serait pas en train de voir, lui, quand il voit la terre, de voir un grand zoom? Un grand zoom. Des liens. Ça fait peut-être très longtemps que le monde s'est réduit à un zoom. Ça veut dire que l'ensemble du spectre des événements que nous vivons, de la Levaya, la Simcha, le mariage, les enterrements, les bar mitzvot, les brit milot, les choules, les minyanim, tout ça. Peut-être que, en fait, on s'était suffi d'un lien juste suffisant. Peut-être que notre lien était dénaturé. On se rencontre, bonjour, au revoir, je suis là, mais je ne suis pas là, tu es là, mais tu n'es pas là. Le Asé, l'Echa Rav, ce Chélek qui est chez toi ne m'intéresse pas du tout, juste j'interagis de manière très superficielle. Le temps d'eux, je vais à un mariage, le temps d'eux, je vais à une Levaya. Est-ce que je rentre pleinement dans la relation? Est-ce que je l'exploite? Est-ce que je vais à fond? Est-ce que je suis dans le assez les Harav, dans le Kinyan et la Asiya? Puisque le Chaver et le Rav sont des verbes d'action, la Asot veliknot, ça veut dire qu'il y a ici une injonction d'agir dans le présentiel, dans la relation à l'autre. Or, peut-être que je l'avais affaibli, cette relation. En fait, ma vie communautaire, social, c'était un zoom. Si finalement tout devient un zoom, tout est superficiel, eh bien, dit Akadosh Baruch Hu, prenez-le le zoom, fonctionnez en zoom puisque vous étiez déjà en zoom. On s'est pris un zoom dans la tête, excusez-moi l'expression, mais peut-être qu'on fonctionnait comme ça depuis très longtemps. On l'avait dénaturé, la relation. Ah oui, c'est vrai que Maintenant qu'on n'est plus chez nous, alors à 20h, les gens sortent sur leur balcon et disent aux infirmiers, on vous aime, on est avec nous. Et chez les Juifs, on chante Manishtana aux fenêtres des appartements à Créteil où on est resté Israël. Magnifique, extraordinaire. Manishtana, tous ensemble. Shema Israël, magnifique, il n'y a aucun problème. Extraordinaire, extraordinaire. La chair de poule. Mais demain, il n'y aura plus le Zoom qu'on connaît, mais il y aura le Zoom qu'on a toujours connu. L'interfaçage. Donc, ici, je me sers de Zoom comme un machal. Encore une fois, il est évident que on l'utilise, et heureusement, on a même fait il y a eu un kumzitz avec Zoom. On peut pas faire autre, on a que ça. Mais si nous avons basculé, alors on doit interroger le monde d'avant pour le monde d'après. On doit interroger la relation. Pourquoi on l'avait dénaturé? Pourquoi on s'était enfui dans d'autres types de relations qui sont moins engageantes? Parce que c'est les chara, vous connaissez les chara verts, qui engagent. Et demain, la réalité reprendra le dessus. Et la réalité de demain, elle risque d'être très similaire à celle d'hier dans l'aspect qu'on aborde, qui est l'aspect relationnel. Pour une raison simple, c'est que l'humain, c'est trop exigeant. Une machine, c'est moins exigeante. Ça libère. Ça ouvre le champ d'autres possibilités. Je suis pas engagé dans une relation. D'ailleurs, au passage, Kinyan d'un Haver, on verra que Kinyan, c'est Kinyan d'une femme. Ça engage. Ça coûte. Il y a quelque chose qui, ça engage. Un lien, c'est exigeant. Et cet interfaçage, forcément, permet un meilleur contrôle de l'image de soi. Et puis, quand j'ai en face de moi de l'inanimé, alors j'ai moins de préjugés possibles. Vous voyez, donc c'est une relation qui se tisse et qui me conforte, qui me c'est le lien juste suffisant. Et là, je finirai avec ça, mais je crois qu'il faut repenser le kinyan du Haver, mais ça on reparlera du Haver plus longuement, et la sia du Rav, la part du Eno Raoui, le besoin de l'autre pour ouvrir et comprendre les choses de manière beaucoup plus impliquée. Il faudra réfléchir, je veux dire clairement, ce n'est peu à se dire c'est pas grave. Mais dans la relation, on sait ce qui a interféré, on sait ce qui a parasité la relation. Dans nos choules, on sait. Dans nos kélotes, on sait. Quand on se parle entre amis, on sait. On sait qu'est-ce qui fait qu'on est là mais qu'on n'est plus là. Alors peut-être qu'il faudra qu'on se mette ensemble, en forme de communauté, des codes. Des codes pour se dire « je prends sur moi ». Alors ce ne sera pas une mitzvah de manière claire et nette, mais un marchir mitzvah peut-être. De se poser en petits groupes pour dire comment on peut faire pour que nos relations, notre être ensemble, où qu'il soit, soit sain, il soit optimal, il soit concret. Parce que c'est là que tout commence. C'est là que commence à jaillir des choses. Ça fait longtemps que c'est aride et que c'est sec. Ça fait longtemps qu'on est en Zoom. Il y a eu un temps de la performance, il y a eu un temps de la pensée, de la réflexion, il y a maintenant un temps de l'action. Il faut qu'on agisse. Pour agir, il faut être ensemble. Ensemble réellement. Être ensemble vraiment. Il y a eu à Boston, il n'y a pas très longtemps, un père qui a appelé la police et qui a dit, il a envoyé un post, je crois, sur Twitter ou je ne sais quoi, et il a dit, mon fils, c'est son anniversaire aujourd'hui et il n'y a personne qui peut venir, ils sont tous en confinement, il est très très triste. Et la police de Boston a envoyé 8 voitures de police qui sont garées devant la maison du petit gamin et qui lui ont chanté bon anniversaire. Jamais on n'aurait pensé entendre un truc pareil avant. C'est-à-dire, il y a cette chaleur cette chaleur, de penser différemment l'autre. Jusqu'où je peux aller? Et si je faisais ça? Si je me dépassais? C'est pas que je veux pas, c'est pas que je peux pas, c'est qu'on m'a pas laissé le temps d'y penser. On m'a pas laissé le temps de construire la relation avec les gens de mon minyan, les gens de ma keïla, les, je sais pas, quand tu vas à une simcha d'un mariage, il n'y a pas que le petit fricassé qui compte. Il n'y a pas c'est quoi le traiteur ou c'est qui l'orchestre. Il y a une dimension humaine dans un mariage dont la rote sont tout le corollaire. Donc c'est de ça qui se joue demain. Le Admour Hazaken, il disait, c'est une grande mida dans la Ahavat Israël, dans l'amour de l'autre, de prendre ton ami par la main et de marcher avec lui. C'est extraordinaire. Mais disait le Admour Hazaken, c'est encore plus grand qu'il arrive à marcher seul grâce à l'amour que tu lui portes. Parce que l'amour que tu lui portes lui permet de marcher seul. Ce qui fait que les choses tiennent, que le monde tient, c'est l'amour qu'on porte aux autres. Et cet amour-là, c'est pas un monde de bisounours dont je parle. C'est que l'autre existe vraiment. C'est ça, assez les harav. Voir qu'il y a du rave, il y a du ribouille, il y a de la grandeur chez l'autre. Il faut se poser pour le voir. Il faut se donner le temps pour le comprendre. C'est une relation. C'est pas pachoute. C'est pas évident. Et donc ça, c'est, voilà, enfin, léat, mais en tout cas, demain va arriver très vite. Et nos habitudes avec. Et il faudra qu'on repense à des nouveaux codes sociaux, des nouveaux repères, qu'on se mette d'accord, que quand je te parle à toi et à personne d'autre. Et quand tu me parles, tu es avec moi, avec personne d'autre. Quand tu pries, tu pries, tu pries avec personne d'autre qu'avec Boré Olam. Qu'on se le dise pour pas être mal à l'aise. Au contraire, pour en tirer un bénéfice du vraiment être ensemble. Et que, Bezrat Hashem, qu'on ne vive plus en mode Zoom et qu'on n'ait plus un Zoom pour nous réunir, même si pour l'instant c'est un bdiavad et il est nécessaire, encore une fois, mais c'est un bdiavad sur la relation intense que Hachem attend de nous, et on n'a pas le droit de laisser, d'autoriser quiconque, quoi que ce soit et qui que ce soit, altérer cette relation qui est propre, vitale au peuple juif et dont dépend énormément de choses, à en croire en tout cas tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, donc Bezrat Hachem, qu'on en reparle de cette relation à l'autre qui doit être dézoomée, qui doit être dématérialisé, peut-être dénumérisé, qui doit être vraiment humanisé, qui doit être réel, qui doit être incarné en chair et en os, qui doit être émotionnalisé avec des gens qui sont pleinement là. Voilà, ça c'est très important. Je crois que c'est vraiment des kivunim qu'on doit avoir à notre échelle, à nous, pour entendre ce que les autres ont à nous dire et ce qu'on a à leur dire. Et Bezrat Hashem, Nekaveh, que ce demain soit très proche et que ce demain soit l'aube d'un grand demain, celui de Biat Goel Tzidkenu Bimera Beyamenu.